Bien bonjour à tous. Donc, vous voyez derrière moi la belle vue. Nous sommes ici au 20e étage de la Tour Montparnasse, dans les locaux du CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, qui est dirigé par François Taddeï, que nous allons interroger, auquel nous allons poser pas mal de questions sur justement l'innovation pédagogique et tout ce qui nous réunit dans nos journées. Alors, pour faire très très court, hein, François Taddeï est à l'origine ingénieur de l'École Polytechnique et puis il est devenu chercheur généticien avec une thèse en 95, une habilitation en 98. Et puis il a fondé ici le Centre de Recherche Interdisciplinaire et il a été beaucoup investi dans pas mal de groupes de travail nationaux sur la recherche dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur. Notamment, il a été missionné en octobre dernier par la ministre Najat Vallaud-Belkacem pour produire un rapport sur la recherche et le développement dans l'enseignement supérieur, rapport sur la société apprenante. Et donc, on va voir dans les questions qu'on va se poser un petit peu ce qui se cache derrière. Un rapport qui a été rendu en mars dernier et qui pointe 10 propositions particulièrement intéressantes, tout à fait en lien avec d'autres textes comme la Stranes, auquel vous avez aussi participé. Voilà, donc un contact très riche, une personne tout à fait stimulante auquel on va poser quelques questions. Bien, donc dans le rapport que vous avez rendu en mars, vous parlez de société apprenante et donc finalement c'est le devenir de l'enseignement supérieur et de la recherche ici en France. Si je vous posais la question, d'après vous, quel est le levier principal qu'il faudrait essayer de lever tout de suite pour vraiment faire de cette société apprenante une réalité dans l'enseignement supérieur? Pour essayer de redonner du sens un petit peu à pas mal de choses, à des activités, à des actions de gouvernance, et puis aller jusqu'à une libération un petit peu des façons de penser, puis pourquoi pas de la sérendipité pour trouver ce qu'on ne cherche pas. Donc quels sont les leviers et les échecs? Enfin, pas les échecs, mais les freins.
Déjà, il faut peut-être définir ce que c'est qu'une société apprenante. Mmh. Une société apprenante, pour nous, c'est une société dans laquelle quand quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre peut apprendre la même chose plus facilement. Mmh. Quand quelqu'un a innové, quelqu'un d'autre doit pouvoir innover plus facilement. Mmh. Hein, ce n'est pas si nouveau que ça, parce que pour des chercheurs, quand un chercheur a progressé, d'autres chercheurs vont pouvoir progresser plus facilement parce qu'on publie, on partage. Et donc, le point clé, c'est le fait de documenter et de partager, et de plutôt d'être en compétition les uns avec les autres, de mettre les étudiants, les enseignants, les chercheurs, tous les citoyens, dans une position de documentation, de partage de nos apprentissages et de nos innovations. Mmh. Et donc, à la fois, on le fait en tant que chercheur, mais est-ce qu'on le fait si souvent en tant qu'enseignant? Est-ce que quand on a innové dans son enseignement, est-ce qu'on est invité à documenter, publier ce qu'on a fait? Est-ce que quand on est un étudiant, est-ce qu'on fait des copies sur papier ou est-ce qu'on produit avec des interfaces numériques et on partage ce qu'on a fait? Est-ce que quand un étudiant a fait un projet remarquable, est-ce qu'un autre étudiant a plus de facilité à le faire? Est-ce que, comme en science, on peut gravir des épaules de géants? On sait que depuis le Moyen-Âge, et Pascal et Newton, que ce sont des dimensions clés pour le progrès scientifique. Mmh. On pense que c'est également des dimensions clés. D'accord. Pour la société apprenante. Donc, c'est d'abord une attitude et un changement.
Une société, on serait tous facilitateurs du travail de l'autre?
On serait tous capables de coopérer les uns avec les autres, mmh. Exactement, et on serait tous capables de s'appuyer sur les progrès que chacun d'entre nous peut faire à différents moments.
Dans le rapport que vous avez écrit, il y a une notion centrale qui revient vraiment beaucoup, qui est celle de réflexivité. Alors justement, ce qu'on disait sur la société apprenante, elle inclut aussi cette notion de réflexivité. Réflexivité dans les apprentissages côté étudiant, c'est-à-dire qu'on est étudiant tout au long de sa vie, et tout au long de sa vie, on a à se poser la question de ses compétences, de sa montée en compétences, de la sécurisation de ses parcours. Et puis réflexivité aussi dans les modes de gouvernance des établissements de l'enseignement supérieur et de quelles réponses l'enseignement supérieur doit apporter. Est-ce que vous pensez que cette réflexivité, c'est quelque chose qu'il faut simplement expliquer aux gens ou est-ce qu'il y a des moyens à mettre? Est-ce que c'est qu'une question de moyens? Est-ce que c'est mine de rien une question de culture, d'altérité? Est-ce que c'est pas tout à la fois et...
C'est une très bonne question. Je pense que la réflexivité, il faut d'abord en prendre le temps. Et il faut réfléchir à ce que ça veut dire qu'apprendre, ce que c'est qu'apprendre à apprendre, qu'est-ce que c'est pour un individu, qu'est-ce que c'est pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que c'est pour chacun de nos étudiants, et puis aussi qu'est-ce que c'est pour un collectif. Qu'est-ce qu'un collectif? Comment est-ce qu'il apprend? Est-ce qu'il a appris à apprendre? C'est des questions qu'on se pose assez rarement. Les universités, par exemple, font de la recherche sur beaucoup de sujets, mais trop peu souvent sur elle-même, oui. sur qu'est-ce que c'est qu'une université, en quoi est-ce que c'est transformé par le numérique, en quoi est-ce que les attentes des étudiants d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles d'hier. Et donc là, je pense que cette réflexivité, il faut à minima en prendre le temps. Et puis, c'est une question peut-être que chacun d'entre nous peut se poser, mais si on sait se la poser collectivement, eh bien, on peut probablement aller plus loin encore. Si on sait écouter les étudiants sur ce que c'est qu'apprendre pour eux aujourd'hui, il y a probablement des choses à faire pour réfléchir à la valeur ajoutée d'un campus, d'une université, à l'heure où on peut trouver tellement de choses sur le web, probablement dans l'interaction humaine, dans la qualité
du mentorat. Sa place dans la société, dans le tissu local. Alors ça, c'est vraiment les choses qu'on essaie de creuser aussi dans le cadre des journées JIPN. Donc,
Ben, bravo d'animer ces réflexions. Je pense que probablement que ces journées sont des moments de réflexivité pour vous.
Sûrement.
Et je pense que tous ceux qui nous écoutent doivent déjà être dans cette démarche. Probablement qu'autrement, ils ne seraient pas là.
Sinon, ils ne seraient pas là.
Mais comment faire pour qu'ils puissent entrer dans cette démarche collectivement ? Et puis qu'ils puissent y inviter les collègues, y inviter les étudiants, y inviter les plus jeunes, y inviter l'ensemble des acteurs et des citoyens d'un territoire. Je pense que c'est ça une des clés d'une société apprenante, c'est de se décliner en autant de collectifs apprenants, territoires apprenants et en démultipliant les relations entre les différents acteurs, parce que apprendre, c'est tout un... toute une vie et au service de l'apprendre. Je pense que c'est... Mais est-ce que l'ensemble des institutions ont conscience de ça ? Est-ce que l'ensemble des acteurs ont conscience de ça ? Et plus on en a conscience, je pense, plus on peut approfondir la réflexion et inventer ensemble de nouvelles manières de faire.
Alors, dans cette idée de réflexivité où l'université, l'enseignement supérieur peut être amené intelligemment et utilement à réfléchir sur elle-même, ça m'amène à une question sur la recherche dans le domaine de l'éducation. Vous pointez dans votre rapport que la recherche sur les apprentissages en France est quand même dans un état un peu sinistré. La preuve en est que le domaine des apprentissages n'est un domaine de recherche pour aucun des grands instituts de recherche français. Ça veut dire quelque chose, certainement, en creux au moins. La question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de dépasser ça ? Et est-ce que finalement, aujourd'hui, on ne pourrait pas revisiter cette question de la recherche en éducation par l'entrée du prisme de l'intelligence artificielle, du big data, du deep learning, tout ce qu'on entend aujourd'hui et qui reconditionne complètement la façon de penser, y compris la limite entre les frontières entre disciplines. Ici, au CRI, je m'imagine que vous êtes de ceux qui défendent que le cloisonnement disciplinaire est un cloisonnement de pensée. Comment vous voyez ça, ces rapports ?
Je pense qu'effectivement, historiquement, moi, comme vous le rappeliez, je viens de la recherche biomédicale. Dans la recherche biomédicale, ça fait bien longtemps qu'on a l'INSERM, les CHU, les programmes hospitaliers de recherche clinique, on a même des instituts hospitalo-universitaires. On a, à chaque fois qu'on a une nouvelle crise, on s'organise pour faire face à Ebola réfléchir sur les problèmes de vaccins aujourd'hui ou pas. Donc la recherche biomédicale a su se structurer et d'ailleurs, il y a des budgets importants et une structuration qui permet de... qui n'est pas parfaite, mais qui permet d'accompagner la recherche qui va du très fondamental au très appliqué. Moi-même, j'étais un des plus fondamentalistes à l'INSERM, donc je vois l'intérêt de la recherche fondamentale et je vois évidemment l'intérêt de la recherche au lit du patient. La recherche sur l'apprendre, ce n'est pas encore structuré comme ça. Je pense que ça viendra, j'espère que ça viendra plus aujourd'hui, parce que je pense qu'on en a encore plus besoin. À la fois...
Et peut-être plus encore qu'une autre, elle est complètement impensable, penser déconnecter de la pratique.
Oui, on a évidemment besoin de la pensée en connexion avec la pratique. Et en même temps, il y a des recherches fondamentales sur comment est-ce qu'une machine peut apprendre, par exemple.
Ou aider à apprendre.
Et donc, d'abord, comment est-ce qu'elle peut apprendre, elle, et comment est-ce qu'elle peut nous aider à apprendre. Et donc, il y a des questions qui peuvent être très fondamentales sur comment fonctionne le cerveau, comment est-ce qu'il apprend, Et donc, je pense que ces recherches-là doivent nourrir aussi des choses pratiques, mais on doit savoir faire des allers-retours entre le plus fondamental et le plus appliqué, comme on le fait dans d'autres domaines, et c'est ce qui fait progresser généralement à la fois les concepts et les pratiques. Ce que vous dites sur l'intelligence artificielle, sur le développement du numérique, sur la robotique, est très vrai. C'est-à-dire que plus on a de données, plus on va pouvoir analyser des choses subtilement, d'un côté, et en même temps, plus l'intelligence artificielle progresse, plus il faut que les intelligences humaines progressent. Ouais. Il faut qu'on s'interroge aussi sur c'est quoi l'intelligence humaine et c'est quoi ses spécificités face au progrès de ces machines. Et je pense que plus les machines progressent, plus l'interrogation sur ce qu'est être humain va devenir essentielle.
C'est que ça ne déshumanise pas, ça réhumanise.
Ça réhumanise parce qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont relativement déshumanisants, au sens où très répétitifs, très machinal. Et donc, si ces métiers sont remplacés par des robots, soit, mais d'abord, il faut inventer d'autres métiers, il faut inventer d'autres manières de vivre ensemble collectivement et de s'interroger sur ce qui fait du sens. Hein. Typiquement, les IA, les algos peuvent optimiser des process, mais ne questionnent jamais un process, ne s'interrogent pas sur ce qui fait du sens ou ce qui ne le fait pas. Donc, plus on saura s'interroger, plus on saura faire des choses que les machines sont loin de savoir faire aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on a besoin plus que de former nos étudiants à mémoriser les savoirs d'hier, les inviter à questionner le monde d'aujourd'hui et à innover pour trouver des solutions aux défis d'aujourd'hui, dont le défi qui est pour chacun d'entre eux de trouver sa place. Mais on a plein de défis qui nous amènent à reformuler plein de choses, et ça, les machines ne savent pas le faire.
Tout à fait. Ouais. Dans cette mutation-là, il y a aussi une question des modes de gouvernance. Peut-être que dans une société qui était plus industrielle du siècle dernier, on était dans des modes de gouvernance très descendants, où on réfléchissait théoriquement à quelque chose, on trouvait la bonne idée et on la mettait en œuvre. Dans la société apprenante d'aujourd'hui, il y a une vraie plus-value de l'expérimentation, de l'émergence des usages, de l'expérimentation produit des usages, qui eux-mêmes vont donner des pistes à la conduite de la pratique. Est-ce que vous pensez que la gouvernance, elle va vite à essayer de se remettre en question dans ces modalités-là, ou est-ce qu'il faut qu'on l'accompagne d'une certaine façon ?
Ce qui est sûr, c'est que le monde d'hier, disons, était un monde hiérarchique et descendant, parce que c'était à peu près la manière la plus efficace de partager l'information et la décision. Aujourd'hui, on est dans un monde où le transfert d'informations est instantané et les besoins de réactivité sont tels qu'on ne peut plus attendre que la rue de Grenelle ou une institution jacobine centralisée parisienne prenne des décisions pour tous les autres. Donc on a besoin de laisser beaucoup plus de degrés de liberté aux acteurs de terrain et en même temps, on a besoin de relégitimer un certain nombre de process. Donc la légitimité n'est pas simplement hiérarchique aujourd'hui, elle est au moins autant sur les compétences. Hein, et en tant que chercheur, on a l'habitude, on sait qu'un prix Nobel a évidemment une forte légitimité, mais qu'il peut être mis en cause par un jeune chercheur qui peut avoir une idée sur un sujet et le prendre en défaut, ça s'est
Alors
produit.
Justement, ça m'amène sur la question que je vais vous poser juste après, qui est sur cette question de l'activité de recherche. Dans le rapport, vous dites que d'une certaine façon, il faut que tout le monde soit chercheur dans la société apprenante. C'est une belle bannière, le tous chercheurs, mais finalement, est-ce que quand on dit ça, on n'oublie pas de dire une chose, c'est que pour être chercheur, il faut être formé par l'enseignement supérieur. Le processus est un peu long, c'est au moins 8 ans pour une thèse, et puis après, on peut aller sur une habilitation, ce qui nous renvoie encore sur quelques années. Bref, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et est-ce qu'on n'aurait pas aussi un peu tort, nous, de l'enseignement supérieur, de penser que finalement tout le monde est chercheur et que notre formation, c'était un peu du temps consacré à autre chose et que finalement, à quoi elle sert si tout le monde peut l'être? Et puis, il y a un autre argument sur lequel aussi je vous interroge. Aujourd'hui, on voit bien que l'enseignement supérieur, pour se développer au niveau de la formation tout au long de la vie, doit aussi se positionner dans une sorte de marché concurrentiel sur la formation professionnelle et aller chercher des parts de marché dans la formation professionnelle. Est-ce que finalement, mettre en avant très très fort que l'enseignement supérieur public, c'est fait par des chercheurs et que la démarche de chercheur, elle peut se retrouver dans plein de champs d'activité, le fait de savoir se repositionner, de ne pas voir une chose par une seule entrée, mais pouvoir se détourner, savoir faire un état de l'art, savoir rendre compte de quelque chose qu'on a fait, publier, s'exprimer. Tout ça, c'est des compétences de chercheurs qui mettent du temps à être acquises. Et est-ce que finalement, il ne faut pas aussi les mettre en avant pour mettre en avant notre réponse, qu'est l'enseignement supérieur dans les défis de la société apprenante ?
Tout à fait. Je pense que la recherche est une dynamique complexe que l'on comprend si on la pratique chaque jour un peu mieux. Et plus on la pratique, mieux on la comprend. Et donc, il y a des gens qui ont évidemment plus de hauteur de vue et plus de connaissances que d'autres. Ce qu'on essaye de dire quand on utilise tous chercheurs, c'est que, en fait, on est parti des sciences cognitives et d'expérimentations sur les plus jeunes, y compris des bébés, qui montrent que, en fait, on est né chercheur, au sens où on est capable d'expérimenter, d'observer le monde, de modifier nos idées préconçues, de faire l'équivalent, les bébés peuvent faire l'équivalent des statistiques bayésiennes. Donc ils ont des a priori, ils les corrigent en fonction de leurs résultats. Donc on expérimente, on apprend de nos erreurs et on révise nos hypothèses.
Je vous parlais tout à l'heure de sérendipité, c'est aussi ça. Donc on serait tous des animaux sérendipiteux.
Oui, oui, et effectivement, je pense que l'évolution elle-même est une des manières d'explorer l'inconnu et de provoquer de la sérendipité. Je veux dire, le vol, c'était pas prévu. C'est de la sérendipité comme beaucoup d'activités. Donc je pense que l'évolution est profondément capable d'explorer les possibles et la recherche et la curiosité sont des manières d'explorer les possibles. Ce qui est intéressant, c'est que...
Ce qui nous ramène au propre de l'humain aussi. On parlait tout à l'heure du rapport entre l'humain et la machine. Cette curiosité, elle n'est pas inscriptible dans un algorithme.
Tout à fait. Mais donc la question, c'est comment est-ce qu'on nourrit cette curiosité et comment est-ce qu'on passe d'un questionnement enfantin, puisque le pic de questionnement semble être à 4 ans, à un questionnement scientifique qui s'appuie sur des méthodologies éprouvées et qui peuvent être différentes d'une discipline à l'autre, même si elles peuvent être complémentaires d'une discipline à l'autre. Et donc, on a un projet qui s'appelle Les Aventuriers, qui est un projet d'enfants chercheurs. Apparemment, il y a des gens dans votre environnement qui s'intéressent aussi à ce projet. L'idée, c'est d'accompagner avec un chercheur senior une classe dans son questionnement où l'enseignant et le chercheur co-définissent un projet qui part du questionnement des enfants et qui savent utiliser la méthodologie spécifique du chercheur et du champ dans lequel se positionne le questionnement des enfants pour les aider à progresser. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants très jeunes, et on a maintenant des maternelles, des primaires, des collèges, des lycées, y compris des lycées pro, des ULIS, etc. Donc toute la diversité possible des âges et des profils de jeunes semblent bénéficier de ce questionnement et de l'accompagnement méthodologique aussi pointu et précis et précieux que peut être celui que l'on a développé dans ces recherches. Et donc le potentiel de l'enseignement chercheur est évidemment plus grand, et plus on a de hauteur de vue, plus on peut aider des jeunes et mieux c'est. Mais on voit qu'on peut avoir une espèce de pyramide de mentorat où plus on connaît de choses, plus on peut accompagner d'autres, mais où en même temps, dès qu'on en sait un petit peu plus que l'autre, eh bien on peut l'accompagner dans son questionnement, on peut l'encourager à se questionner, on peut lui dire qu'effectivement faire l'état de l'art, faire des hypothèses, les tester, documenter son process, ça fait partie des spécificités. Et donc je pense que les universités sont quelque part le hub de cette société de la connaissance, de ce monde où on est tous chercheurs. C'est un hub où la concentration des savoirs, la concentration des méthodologies, la concentration des équipements permet d'aller toujours plus loin. Et donc c'est quelque part l'avant-garde, je dirais, de cette société apprenante. Et donc je pense que les universités et les chercheurs qui ont la chance de faire ça quasiment à plein temps ou à mi-temps, peuvent le faire. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est quand on est chercheur, oublier quand on enseigne qu'on est chercheur, et donc on peut transmettre cette passion de la recherche et aussi être un chercheur sur la propre manière dont on enseigne.
Tout à fait.
Donc il y a un certain nombre de pays...
On revient sur la réflexivité.
Où la réflexivité dans son enseignement est encouragée, où on développe ce qu'on appelle le Scholarship of Teaching and Learning, et où on peut être invité à publier sur ces innovations pédagogiques, on peut même être invité à progresser dans sa carrière parce qu'on a su mettre en place des dispositifs innovants et les partager.
Faudra encore dans ce cas-là que la valorisation des carrières soit aussi sur les deux tableaux entre la recherche et la pédagogie, ce qui pour l'instant est toujours un peu un problème.
Mais quand on est un enseignant-chercheur, moi il me paraîtrait tout à fait naturel que pour progresser dans sa carrière, il faille progresser dans son enseignement comme dans sa recherche, et qu'il faille être aussi bon que possible dans les deux et si possible excellent dans au moins une des deux
dimensions. On sent bien que c'est des idées qui sont dans l'air, que le constat est fait qu'il faut effectivement faire plus de ponts entre les deux activités.
Je pense que demain, dans sa habilitation à diriger des recherches, si tant est qu'elle existe encore, parce qu'il y a tout un tas de pays qui n'ont pas ce dispositif, mais si on doit le préserver, je pense qu'il faut demander non seulement de faire le bilan de ses recherches, mais aussi le bilan de ses innovations pédagogiques et inciter à cette forme de réflexivité, à la fois sur sa recherche et sur son enseignement.
Dans les mutations de la société, j'ai l'impression que souvent on voit par crainte les effets négatifs, donc une certaine crainte de la transformation du numérique par la destruction des emplois, une crainte de l'ubérisation comme la remise en cause des systèmes institutionnellement bien mis en place. Est-ce que plutôt que de voir ces aspects-là comme des craintes, on pourrait faire en sorte de se rassurer un petit peu, sans forcément nier les difficultés, mais plutôt voir ça comme des opportunités. Opportunités si on y remet l'éducation, l'apprentissage au centre de la problématique. Est-ce que ce n'est pas le bon moment, justement, quand on vit une transition comme celle qu'on vit en ce moment, pour dire que l'apprentissage doit être le cœur du jeu public et de l'activité de la société apprenante? On voit aujourd'hui un rapport de l'OCDE de l'année dernière qui dit que 30% des métiers en France sont voués à être massivement changés, voire pour une partie supprimés. Ça peut faire assez peur. La bonne réponse par rapport à ça, c'est de dire qu'il ne faut pas apprendre une employabilité tout de suite immédiate, surtout que si les métiers changent dans 30 ans et qu'une carrière, ça dure plus que 30 ans, ce qu'il faut apprendre, c'est apprendre à apprendre en continuum et tout au long de sa vie, ce que vous avez montré avec la réflexivité des apprentissages. Voilà, donc ce concept qu'on appelle la formation tout au long de la vie, ce n'est pas du tout une étiquette à mettre, mais c'est vraiment un vrai changement culturel. Et est-ce que vous pensez que le moment est clé de ce point de vue-là ?
Oui, je pense qu'il est clé parce qu'effectivement, pour toutes les raisons que vous avez énoncées, pour cette progression exponentielle de la capacité de calcul, de l'intelligence artificielle et de la robotique, fait que si on regarde l'histoire, sur les 200 dernières années, à partir du moment où on a la révolution agricole, la révolution industrielle, il y a des emplois qui ont été radicalement transformés. Il y a une époque où on était 95% paysans, par exemple.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est à peine 3% des gens. Donc, comment est-ce qu'on a évolué historiquement ? On a évolué en créant des écoles et en augmentant en moyenne d'un an tous les 10 à 20 ans, la durée de scolarité moyenne de nos concitoyens. Donc on a passé toujours plus de temps à apprendre. Il y a une époque où avoir son certificat d'études, c'était déjà beaucoup.
Ça
et puis avoir le bac, c'était une montagne. Et puis aujourd'hui, des générations entières ont le bac, rentrent à l'université, vont jusqu'à des masters, voire à des doctorats. Il y a à peu près autant de gens qui ont un doctorat aujourd'hui que de gens qui passaient le bac du temps de mon grand-père, juste pour donner un ordre de grandeur. Donc ça incarne bien cette augmentation moyenne de la formation. Et face à un monde où les changements non seulement se prolongent, mais semblent s'accélérer, il faut probablement qu'on n'augmente pas simplement le nombre d'années d'études, mais aussi qu'on améliore la manière dont on apprend. Et donc on est ce besoin de réflexivité, cette recherche sur ce que c'est qu'apprendre et ce que c'est qu'apprendre les uns des autres, ce que c'est qu'apprendre d'une machine, ce que c'est qu'apprendre d'une expérience, ce que c'est qu'apprendre en faisant, ce que c'est qu'apprendre en réfléchissant, etc.
Et de flexibilité aussi, parce que dans ces enjeux où justement le temps qu'on doit consacrer à l'éducation, il s'allonge et en même temps il se répète tout au long de son parcours, il faut faire en sorte que ce soit l'enseignement supérieur qui s'adapte à ses publics et surtout pas le contraire.
Ça, c'est sûr. Face au changement du monde, je pense qu'on a tous besoin d'évoluer. Hein, moi, je viens de la biologie évolutive. En biologie évolutive, il y a le concept de la reine rouge qui court très vite, mais n'avance pas, parce qu'elle est dans un monde qui bouge. Et si elle veut aller plus loin, plus vite, elle se doit de courir au moins deux fois plus vite. Donc, on a besoin d'évoluer dans un monde qui bouge. Celui qui n'évolue pas sera forcément un jour ou l'autre obsolète. Ou toujours plus obsolète. Et donc, dans ce monde qui bouge, on a besoin de se demander dans quelle direction on a envie que ça bouge. Pas simplement être consommateur de technologies qui viennent d'ailleurs, mais être capable d'inventer ses propres modalités d'apprentissage, ses propres manières de vivre ensemble. Donc, on a besoin d'être des acteurs et des auteurs de cette société de la connaissance, de cette société apprenante. Mais ça doit être aussi une société de la reconnaissance.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on
doit
reconnaître qu'il y a mille et une manières d'apprendre, que certaines sont peut-être plus légitimes que d'autres, et on peut espérer que les universités en soient...
En tout cas, toutes complémentaires.
Elles sont toutes complémentaires, et la notion de reconnaissance est très importante. Par exemple, la belle notion de validation des acquis de l'expérience qui aujourd'hui est un peu le parent pauvre et est organisé de manière très bureaucratique, je pense qu'il va falloir le réinventer. Et que
en tout cas, si on veut tenir les objectifs de la Stranes, il y a intérêt, parce que là, on est à 4000 VAE à l'année, là où la Stranes en vise 20 000.
Oui, et il y a des millions de gens qui ont besoin d'apprendre en permanence et qui apprennent en permanence, mais sans aucune forme de validation. Et la formation continue est en moyenne d'une qualité qui est, disons, perfectible pour être gentil, et qui devrait nous inciter, en particulier les universités qui pensent, en appuyant ce qu'on fait sur la recherche, être de meilleur niveau, on a probablement en tant qu'universitaire des capacités à offrir une vraie valeur ajoutée, mais encore faut-il comprendre les besoins des acteurs de terrain et s'adapter à leurs besoins et être capable éventuellement de se réinventer et d'écouter, y compris nos étudiants. Je pense qu'il y avait un sondage récent qui disait que 95% des 15-30 ans voulait voir le système éducatif changer. 95%. Donc ça commence à être un chiffre
massif, quand même.
Un peu conséquent. Je pense qu'une bonne partie des plus de 30 ans verraient bien la formation continue évoluer aussi. Et donc il y a probablement besoin de repenser ça. Mais si on le repense tout seul dans notre tir d'ivoire, on ne va pas y arriver.
Alors justement, ça m'amène à ma dernière question. Dans cette idée de mieux comprendre l'étudiant, vous me parliez tout à l'heure de l'enfant de 4 ans qui avait son pic de curiosité. L'étudiant d'aujourd'hui par rapport à l'étudiant de la génération dont on a été, vous et moi, on va dire il y a 15-20 ans, et puis l'étudiant de dans 15-20 ans, est-ce que finalement c'est le même? Est-ce que ça change profondément, on va dire, l'apport du numérique dans l'écosystème de vie des gens au niveau de leur capacité à apprendre et de la capacité à justement développer des compétences?
Bon, alors génétiquement, on n'a pas évolué, hein.
Mais
au niveau neuronal, on sait déjà que quand on lit, on modifie notre cerveau, et quand on utilise différentes modalités d'apprentissage, on perfectionne certains réseaux neuronaux. Il n'y a pas beaucoup de doutes là-dessus. Et donc si les attentes sont différentes, si l'accès à la connaissance est potentiellement instantané, en tout cas l'accès à l'information, après comment on le transforme cette information en une connaissance que l'on maîtrise vraiment, ce n'est pas instantané, ça suppose tout un tas de process qu'il faut avoir appris à maîtriser. Et donc je pense qu'à la fois ils ont d'autres comportements, et en même temps le besoin de certains sujets fondamentaux comme l'esprit critique par exemple.
Et des attentes.
Est essentiel. Leurs attentes ne sont pas forcément les mêmes qu'hier. On se doit de comprendre leurs attentes et on se doit de les aider à développer tout un tas de compétences, dont cet esprit critique, parce que sur le web, il y a évidemment à boire et à manger, il y a évidemment des théories du complot, des tromperies, des choses de ce genre. Et il faut apprendre à décortiquer les news, à décortiquer la publicité, à décortiquer y compris des publications, parce qu'en tant que chercheur, on sait bien que toutes les publications ne se valent pas, qu'il y a besoin là aussi d'un esprit critique. Donc je pense que cette pédagogie par la recherche me paraît toujours plus centrale et on peut accompagner les étudiants pour les armer et faire qu'ils aient appris à apprendre et qu'ils deviennent des autodidactes autonomes, capables d'apprendre à apprendre tout au long de leur vie, mais en même temps de contribuer à cet écosystème de connaissances en étant des acteurs et des auteurs, comme je le disais. Et donc, ce qu'il faudrait éviter, c'est qu'ils deviennent toujours plus passifs, toujours plus...
Consumériste.
Mais nous-mêmes, face à la télé, hier, ce n'était pas gagné d'avance. Ouais. Et même quand on lisait un bouquin, est-ce qu'on avait un regard critique sur le bouquin? Ce n'était pas forcément gagné. Donc, je pense que Socrate, déjà, mettait le questionnement au cœur de l'éducation. Et déjà, à l'époque, avait un regard critique sur les technologies de son temps, dont l'écriture. Parce qu'il disait, quand on écrit, on ne sait pas forcément pour qui on écrit. Quand on lit, on ne peut pas poser les questions à celui qui a écrit. Et donc, il préférait le dialogue. Et donc, je pense que la force du campus, c'est justement cette capacité à mettre en dialogue.
Après, ce que le numérique amène, c'est la quantité qui est aujourd'hui ce qu'on appelle l'infobésité un peu.
Il y a la quantité, ce qui ne veut pas dire la qualité, comme on l'a dit. Mais ce que le numérique apporte, de mon point de vue, c'est un décloisonnement dans l'espace et dans le temps.
Oui.
C'est déjà le cas de l'écriture en partie, mais là, il y a une instantanéité de la trace, de son partage, et une ouverture qui fait que instantanément quelqu'un à l'autre bout du monde peut voir ce qu'on a fait, et inversement, on peut s'enrichir de ce qui a été fait de potentiellement pertinent ailleurs. La question, c'est comment est-ce qu'on sait ce qui est pertinent,
comment on s'y retrouve,
comment est-ce que dans ce tsunami, dans cette infobésité, on peut trouver ce qui fait sens pour nous. Ouais. Et donc réfléchir sur ce qui fait sens, ça sera toujours plus essentiel, si je puis me permettre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à y avoir des recherches sur ces sujets qui montrent que ce qui fait sens, c'est la qualité de la relation à l'autre, c'est la créativité, c'est faire des choses nouvelles qui ont du sens pour soi, c'est aussi faire des choses qui nous dépassent, qui nous permettent de contribuer à plusieurs, à faire des choses qu'on ne saurait pas faire seul.
Ouais.
Et donc, comment est-ce qu'on invite nos étudiants à rentrer dans ces dynamiques-là, comment est-ce qu'on les aide à comprendre la complexité du monde, les défis planétaires, comment est-ce qu'on leur fait comprendre qu'ils peuvent contribuer à cette make the planet great again, pour reprendre une formule un peu célèbre aujourd'hui. Donc voilà, je pense que... Et en fait, ils aspirent à ce genre de choses.
Ouais.
Ils sont déjà à la fois citoyens normands, citoyens de leur village, de leur ville, aussi citoyens français, citoyens européens, mais aussi citoyens du monde. On est quelque part tous citoyens de cette fractalité, de cette complexité, et on est capable d'en comprendre les enjeux locaux et globaux. Et de contribuer à ces sujets-là. Et les étudiants qui ont participé, par exemple, à des projets permettant de résoudre un des objectifs du développement durable des Nations Unies, peuvent rentrer en résonance, voyager, partager. Et les compagnons du devoir le faisaient déjà. Hein. Les compagnons du Tour de France faisaient déjà ce genre de choses il y a bien longtemps. Mais toujours plus d'étudiants aspirent à la mobilité, à la rencontre et au décloisonnement. D'autant que à la fois les voyages forment la jeunesse. Et en même temps, il y a un joli proverbe chinois qui dit 1, 2, l'infini. Si on ne connaît que le 1, on a du mal à penser autre chose. Si on a vu au moins un deuxième, voire plus, alors on peut penser une infinité de solutions. Et donc je pense que de même que les regards de différentes disciplines, les regards de différentes cultures peuvent nous aider à décloisonner, eh bien, plus on voyage, plus on s'ouvre, plus on discute, plus on a de chance d'enrichir notre compréhension du monde et de dépasser nos propres limites cognitives. Parce que ça, on en a trop peu souvent conscience, et les étudiants sont en fait contents d'apprendre que évidemment on a tous des limites et que ce qui compte c'est d'apprendre à les dépasser. Donc on le sait depuis le mythe de la caverne, mais il n'y a pas qu'une seule caverne, il y a une espèce de fractal là aussi, de barrière mentale progressive qu'on peut dépasser.
Très bien, vous me parliez de qualité de relation, je voudrais vous remercier pour la nôtre en tout cas, parce que
merci à vous.
Je trouve que l'entretien a été particulièrement stimulant. J'imagine que tous ceux qui vous ont écouté vont en penser pareil. Merci beaucoup,
merci.
Au nom de tout le comité d'organisation des JIPN, d'avoir accepté cet entretien. Et puis à très bientôt, j'espère.
À très bientôt. Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.